Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civiquement violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi.
La Terre, l'eau, le jour du dépassement, la Terre, moins 2, l'eau, pas de dépouillement.
Aujourd'hui, nous reprenons le cycle sur les énergies. Après le photovoltaïque, nous allons parler éolienne. Alors, juste pour se rappeler, pourquoi est-ce qu'on parle des énergies renouvelables ? Pour réduire nos émissions de CO2, qui implique le réchauffement climatique. Car le réchauffement climatique, c'est plus de phénomènes violents, de disparition d'espèces animales et végétales, et de réduction des rendements agricoles. Il faut donc réduire l'usage d'énergies fossiles, notamment dans le transport et le chauffage. Alors, une éolienne, où peut-on la placer ? Eh bien, légalement, on peut la placer seulement à plus de 500 mètres de toute habitation. En effet, à 500 mètres, légalement, l'éolienne doit faire un bruit de 35 décibels, ce qui équivaut à un réfrigérateur. Le déroulement d'une installation d'éolienne, c'est un petit peu l'empire du secret. Le promoteur fait tout pour avancer sans alerter. Dans un premier temps, le promoteur recherche des propriétaires terriens. Il fait signer des promesses de baux qui sont un engagement du propriétaire sur 6 ans. Et une fois tout ficelé, le promoteur demande à la mairie s'il peut installer un mât de mesure. En fait, c'est la première fois dans le projet que l'information devient publique. Le mât de mesure sert à mesurer le vent et donc à estimer quelle sera la production du champ d'éoliennes. Ensuite, il y a des études d'impact. Ensuite, on procède aux travaux, puis à la production et enfin au démantèlement. Alors, qui décide finalement d'installer des éoliennes ? La plupart des éoliennes aujourd'hui installées font plus de 50 mètres. C'est l'État qui décide, et donc son représentant sur le territoire, le préfet. Les communes, le département, les parcs nationaux, la DREAL, les habitants, on leur demande leur avis, mais finalement c'est le préfet qui tranche. Parlons maintenant un petit peu de technique. Qu'est-ce que c'est qu'une éolienne ? Une éolienne, tout d'abord, on va commencer au sol. C'est un lest de 1500 tonnes de béton qui sert à éviter que l'éolienne tombe à terre quand il y a trop de vent. Ensuite, il y a une structure. C'est à peu près 300 tonnes d'acier pour le mât et pour les pales, 90 tonnes de composite. Et pour l'alternateur qui va fabriquer l'électricité, il y a des enroulements de cuivre et d'aluminium. Et notamment dans le cas des éoliennes en mer, il y a des terres rares. L'installation d'une éolienne, eh bien, ce sont des éléments qui peuvent atteindre jusqu'à 50 mètres, voire plus. Il faut donc les transporter par voie terrestre. Il faut également couler le lest, donc du béton, et pour cela, il faut agrandir le plus souvent des routes ou des chemins. On vient donc artificialiser un petit peu plus le territoire. En termes de production, une éolienne, eh bien, cela brasse du vent. Le vent est une énergie très diluée. Un ordre de grandeur, pour une éolienne de 3 MW, donc à peu près 100 mètres de diamètre, eh bien en une seconde, le vent va apporter, lorsqu'elle produit, l'équivalent de 20 ml d'essence, soit 0,2 kWh. Pour recharger une voiture électrique, il faut à peu près un quart d'heure avec une telle éolienne. Alors, la question principale, c'est est-ce que l'éolien réduit l'empreinte carbone ? Réponse de Normand, oui, car les émissions sont principalement dues à la construction et lors de la production, eh bien, il n'y a pas d'émissions particulières puisqu'on utilise l'énergie du vent. La seconde réponse est plutôt non, car bien évidemment, le vent est de nature intermittente. Et quand il n'y a pas de vent, eh bien, c'est le gaz qui prend la relève. C'est une énergie aléatoire qui demande donc d'installer une autre capacité identique, on a donc une double infrastructure. Et il faudrait notamment consommer cette électricité quand elle est produite, car l'énergie éolienne est en fait une énergie solaire. Si on mesure la production éolienne et la production solaire sur le réseau EDF, on constate qu'il y a un décalage de quelques heures entre les pics des deux productions, plutôt vers midi pour le solaire, et le pic de production éolien arrive plutôt en pleine nuit vers 2h du matin, lorsque on a un moindre besoin en énergie. Mais est-ce vraiment primordial de décarboner aujourd'hui de l'énergie en quelque sorte décarbonée, alors que l'électricité ne représente qu'un tiers de l'énergie que nous consommons ? Quasiment la moitié de l'énergie utilisée aujourd'hui, c'est de l'essence. Alors, la plupart du temps, les gens pensent qu'une éolienne, ça tourne très peu. En fait, son taux de charge, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'elle aura produite à la fin de l'année par rapport à sa capacité, c'est 25%. C'est comme si pendant 25% du temps, elle produisait à pleine capacité et qu'ensuite, les trois quarts du temps, elle était à l'arrêt. Sauf qu'en réalité, elle tourne 80% du temps, donc plutôt à bas régime, et cela engendre du bruit 80% du temps. Quand on installe une éolienne, la question principale, bien évidemment, c'est le vent. Est-ce qu'il y a du vent ici ? Alors en fait, plus on monte en altitude, plus il y a de vent, plus il est régulier. L'ADEME a réalisé, dans les années 90-2000, une cartographie des gisements éoliens en France. Et les gisements éoliens les plus importants sont sur la partie Bretagne-Nord-Pas-de-Calais et sur les Bouches-du-Rhône et les Montagnes Noires. Cette carte a été réalisée afin d'aider l'État français à décider si oui ou non il allait aider à installer des éoliennes, car on ne va pas aider à installer des éoliennes là où il n'y a pas de vent. Maintenant, nous allons nous intéresser aux croyances. On entend souvent « oui, mais il y a toujours du vent quelque part et à l'échelle de l'Europe, eh bien, on aura toujours de l'électricité. » Alors justement, est-ce qu'il y a toujours du vent quelque part ? Non, la météo est un phénomène à l'échelle d'un continent. Quand il y a du vent en France, statistiquement, il y a du vent en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Scandinavie. Et quand il n'y a pas de vent en France, il n'y a pas de vent en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, ni en Scandinavie. L'autre croyance, c'est de penser que les énergies renouvelables remplacent d'autres énergies, notamment fossiles. En fait, ce n'est quasiment jamais arrivé. Le seul cas connu, c'est la crise de 2008. Mais là, ce ne sont pas les énergies renouvelables qui ont remplacé l'énergie fossile, c'est la crise, l'utilisation de moins d'énergie globale au niveau de l'économie. Revenons-en à notre éolienne. Une fois qu'elle a produit, que devient-elle ? Eh bien, on parle de démantèlement. Il est obligatoire de prévoir le démantèlement d'une éolienne. En France, aujourd'hui, il n'y a jamais eu de démantèlement de grosses puissances d'éoliennes, car le parc est trop jeune. Par contre, l'État demande à ce que l'éolienne soit recyclable. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est recyclée, qu'il y a une filière derrière. En effet, par exemple, les composites sont composés notamment de fibres de verre et de plastique. Elles ont très peu de valeur intrinsèque en tant que matériaux et il est très difficile de les séparer. Alors, où finissent-elles ? Aux États-Unis, c'est simple, on les met dans le désert, on remet du sable par-dessus. En Europe, eh bien, on n'a pas le droit de le faire, donc on les stocke sur de grandes surfaces. Et on attend quoi ? Aucune idée. Alors, il y a également le socle, 1500 tonnes de béton. En France, il n'y a que 10% du béton qui est recyclé. Le restant est décyclé ou laissé tel quel. Alors, quels sont les bâtiments qui sont à peu près de la même taille, qui sont à peu près de la même masse, du même matériau ? Eh bien, cela s'appelle un bunker. Ont-ils été démantelés ? Non, c'est trop compliqué. Qu'à cela ne tienne, de toute manière, la législation a déjà prévu la parade. En effet, elle exige à ce que le sol soit excavé sur 2 mètres lorsqu'on a installé l'éolienne en forêt, 1 mètre lorsqu'on est dans des champs et 30 cm quand on est sur un terrain non agricole. C'est-à-dire en gros rien par rapport à la profondeur de racines des végétaux. D'autant plus que souvent, le socle est coulé à une profondeur d'environ 1 mètre. Donc finalement, la législation demande d'excaver jusqu'à ce qu'on obtienne le socle en béton. Donc rien. Maintenant, intéressons-nous aux impacts environnementaux. Tout d'abord, il y a l'artificialisation. L'artificialisation de par le chantier, les terrassements, les créations d'accès, et on rend ainsi la terre infertile, ce qui implique également des pertes de rendement agricole. On s'intéresse souvent aux chocs à l'oiseau. Alors tout d'abord, toutes les études s'accordent pour dire qu'elles sont sous-évaluées. En effet, l'oiseau passe à travers l'éolienne, se prend l'éolienne, tombe à terre, les prédateurs viennent, et du coup, pour compter les oiseaux qui sont tombés à terre, il faudra revenir. Il existe des systèmes d'évitement avec des radars, des effaroucheurs qui vont faire encore plus de bruit. Et des études du CNRS ont montré que c'était totalement inefficace, qu'il n'y avait aucun impact particulier. Les mêmes études indiquent que le choc à l'oiseau est mineur dans l'impact de la biodiversité. En effet, on note une baisse drastique de la biodiversité, notamment des oiseaux et des chauves-souris, sur 500 mètres à 1 km autour des champs d'éoliennes. Pourquoi ? Eh bien parce que les oiseaux et les chauves-souris et autres ont peur quand il y a du bruit et des éléments qui bougent, tels les pales. Ils vont donc éviter ce secteur. Les seuls qui ne peuvent pas éviter ce secteur, ce sont ceux que l'homme a mis entre des barrières, c'est-à-dire notre cheptel, qui ne pouvant s'échapper, eh bien sera stressé par le bruit et le mouvement incessant des pales. Alors, continuons sur les impacts environnementaux, mais plutôt centrés sur l'humain. Qu'est-ce qui pourrait nous laisser penser qu'une éolienne, c'est plutôt désagréable ? Eh bien déjà, il y a la vue. Entre nous, une éolienne, c'est moche. Il y a le bruit, bien entendu. On a parlé tout à l'heure du bruit à 500 mètres, le bruit d'un réfrigérateur 35 décibels. Alors un réfrigérateur, oui certes, ce n'est pas beaucoup. Seulement votre réfrigérateur, je suppose qu'il est dans votre cuisine, il fonctionne par cycle, c'est-à-dire qu'il va fonctionner pendant 5 minutes, s'arrêter pendant 1 heure, reprendre pendant 5 minutes. Là, rappelons-nous, notre éolienne, elle tourne 80% du temps. Donc 80% du temps, j'ai sur mon dos un frigo qui ne s'arrête jamais. Et si je vais dans ma chambre, j'entends toujours le frigo. Je vais dans mon jardin, j'ai toujours le frigo sur le dos. Il y a également la lumière des flashs rouges qui permettent à l'aviation d'éviter les éoliennes. Il y a également un effet auquel on pense beaucoup moins. C'est l'effet stroboscopique. Et pourtant, c'est peut-être le pire. Le soleil qui passe à travers les pales va créer une ombre. Et cette ombre tombe sur votre maison. Toutes les secondes, eh bien, vous avez un flash. Il fait noir, il fait jour, il fait noir, il fait jour, il fait noir, il fait jour. Ainsi pendant des heures. Alors, pour résumer, les éoliennes ne remplacent pas les autres énergies, que ce soit nucléaire, fossile ou autre. Et l'autre point, c'est qu'après le changement climatique que l'on essaie de régler avec les énergies renouvelables, eh bien, on s'attaque à l'extraction minière. Une fois qu'on n'a plus de mine, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous propose de continuer en compagnie d'Archipol. Avant, j'aimais les éoliennes.
Ça fait maintenant 15 ans qu'elles sont là, 100 000 éoliennes qui tournent à tour de bras, un quart de kilomètre au-dessus de nos têtes, qui sème le vent, récolte la tempête. Il était tout content, monsieur le maire, un fervent opposant au nucléaire, un grand vent d'enthousiasme a nourri les fantasmes d'une énergie propre et conduit au marasme. Auparavant j'aimais les éoliennes, mais j'ai succombé au chant des sirènes, et j'ai en vrille le vrombissement de leur valse dans le vent. Adieu nos nuits étoilées, adieu nos belles au bois dormant. Et les vents vont, et les vents viennent, ils font tourner les éoliennes, mais quand ils freinent, quand ils s'éteignent, qui fait tourner les éoliennes? Comme le soleil qui ne brille pas tout le temps, le vent aussi n'est qu'un intermittent, et c'est aux centrales thermiques de faire tourner la boutique. Toujours besoin de courant, même quand le vent nous fait la nique. Bien que tant d'oiseaux aussi soient coupés les ailes, elle pousse sa vitesse exponentielle, plantée dans le béton, crucifiant l'horizon. De la discorde, elles sont la fondation. En vérité, en fait de cause climatique, le calcul se révèle diabolique. Il y a tant de profits à la clé pour les lobbies, la tragicomédie d'une énergie à double prix. Et les vents vont, et les vents viennent, et tournent les éoliennes. Elles s'égrènent comme la gangrène dans nos campagnes quotidienne. Au vent viole comme au soleil d'Icare, on peut brûler ses ailes sans crier gare. Au cri de l'ignorance sur ces gibets de potence, qui nous dira le prix du vent et des oiseaux en transhumance. On vend de l'infox à pertes et fracas à propos de l'éolien dans les médias. Écoutez ces politiques avec leurs choix cyniques. Une éolienne dans son jardin, c'est pas beau, mais ça fait du fric. Alors qu'en France on est indépendant en énergie sans carbone, on vend du vent, et c'est en milliers de tonnes que l'on coule et qu'on bétonne le sol de nos forêts puits de carbone. Et les vents vont, et les vents viennent, et tournent les éoliennes. Et dans l'arène, en maître règne, de faux débats qui nous aliènent. Mais l'anti-éolien accroît ses troupes, ses opposants ont bien le vent en poupe. Plus qu'une armée de Don Quichotte portée par un vent de révolte face à ces champs de géants qui clignotent. Alors aujourd'hui c'est quoi être écolo? C'est choisir nos forêts et les oiseaux. Plus de maisons énergivores, régler la question des transports, agir en responsable, enfin prendre en main notre sort. Dans 25 ans, elles seront toujours là, grand mât semblera passer de vie à trépas. Je ne serai pas celui-là qui aura dit autrefois les éoliennes adviennent que pourra. Et les vents vont, et les vents viennent, elles finiront, les éoliennes. Qu'à cela ne tienne, semons les graines pour que l'avenir nous appartienne.
C'était Archipol, avant J'aimais les éoliennes, produit par l'association collective Bourgogne-Franche-Comté et association Paysages et Forêts de l'Armancin. Alors, après cet intermède, eh bien, nous allons parler économie, notamment des taxes. Les taxes sont définies par la loi. Le bénéficiaire, c'est la commune qui récupère 20% des taxes, la communauté de communes qui récupère 53% et le département qui récupère 27%. Alors souvent, les promoteurs indiquent créer de l'emploi, notamment de l'emploi local. Si je prends un exemple, par exemple une société qui s'appelle VSB, eh bien son investisseur est suisse, c'est un fonds d'investissement, le bureau d'études est à Nîmes, la construction des éoliennes se fait plutôt en Allemagne ou en Espagne. Les matériaux, le ciment, alors éventuellement lui, il vient de France. Par contre les métaux, eh bien il n'y a aucune mine en France. Les terrassements, les fondations, rappelons-nous, c'est 1500 tonnes par éolienne. Il n'y a pas de compétences locales, ce sont des équipes dédiées qui vont le faire. Quant à l'entretien, eh bien, il n'y a pas non plus une équipe locale, ce sont des équipes mobiles. Donc l'économie locale, oublions-la. Mais finalement, quel est le risque financier de l'investisseur? En fait, il n'y en a aucun. Tout d'abord, l'investisseur, c'est une image qu'il s'achète, pas forcément la production d'électricité. D'autre part, l'électricité éolienne et photovoltaïque sont appelées en priorité sur le réseau, hors Outre-mer. D'autre part, l'État a tout prévu. Il y a un complément de rémunération qui est assuré, qui est payé par vos impôts. Donc le gestionnaire de l'éolienne, eh bien, est sûr sur 20 ans de vendre son produit et sûr de le vendre à un certain prix fixé. Il y a très peu de commerçants qui ont cette chance. Revenons-en à l'économie pour les propriétaires. Qu'est-ce qu'on leur offre en contrepartie? Eh bien, on leur offre environ 10 000 euros par an pour l'installation d'une éolienne. Mais pourquoi un promoteur vient-il payer 10 000 euros par an un terrain qu'il aurait pu acheter lui-même 10 000? Une des raisons, c'est que le démantèlement est sous-provisionné. De manière légale, il est obligatoire de provisionner 50 000 euros. Sauf que le démantèlement ne coûte pas 50 000 euros, mais beaucoup plus. Lors d'audition à l'Assemblée nationale, un des promoteurs a fini par lâcher qu'il estimait à un minimum de 150 000 euros le démantèlement d'une éolienne. Donc finalement, il est plus intéressant de louer un terrain qu'à la fin on laisse, quelqu'un s'occupera du démantèlement, le propriétaire ou l'État. Mais comment s'assurer ça? En fait, c'est relativement simple. Le promoteur est une maison mère et elle va créer pour chaque projet une sous-filiale qui, elle, a un capital par exemple de 1000 euros. Si un jour on lui demande de payer plus que les 50 000 euros qui ont été provisionnés pour le démantèlement, eh bien elle a un capital de 1000 euros, donc elle ferme la société, elle rend ce capital pour le démantèlement et nos impôts paieront le reste. Il y a également une question forte sur la valeur foncière des maisons aux alentours. Eh bien, chacun d'entre nous est assez conscient que plus on s'éloigne de l'éolienne, plus la décote est moindre. Si on est dans les deux premiers kilomètres, la décote sera très forte. Des études ont été faites là-dessus. L'ADEME dit, finalement, la base de données fournie présente des difficultés d'interprétation. Pourquoi? Parce qu'au pied des éoliennes, les maisons n'ont pas de décote. Elles ne sont pas vendables. Et d'ailleurs, la jurisprudence reconnaît cette perte de capital. Ce n'est donc pas juste une lubie de quelques personnes contre les éoliennes. La plupart des promoteurs vont essayer de faire adhérer la population, notamment en proposant un financement participatif. Sauf qu'en fait, pour 5 à 6 éoliennes, il faut sortir 30 millions d'euros. Les financements participatifs vont réussir à lever quelques centaines de milliers d'euros tout au plus, mais rien face au mastodonte qu'est le promoteur. Alors, l'idée initiale, c'était quand même de décarboner notre énergie. Donc, on pourrait penser qu'on va décarboner non pas l'électricité, mais le reste, le pétrole par exemple, qui représente 50% de l'énergie utilisée en France. Eh bien, si on remplace l'intégralité du pétrole utilisé en France par des éoliennes, il faudrait avoir une éolienne tous les 8 km carrés. Chaque commune a 4, 5, 6 éoliennes. C'est démentiel. Pourquoi? Parce que le problème est bien mal posé. Ce n'est pas la production, le problème, c'est l'usage. Ces chiffres, c'est sans compter les transports internationaux, les avions, les bateaux, et ainsi de suite. Il faut savoir qu'à partir du moment où un parc est créé, on ne peut plus dire que de nouveaux parcs vont dénaturer le paysage. Il est déjà dénaturé. Donc un parc signifie déjà plusieurs parcs. Pour résumer, ce n'est pas la bonne approche. On s'excite beaucoup sur la production d'énergie. Les éoliennes ne remplacent pas l'énergie fossile. C'est la consommation qui va remplacer. Certes, on ne peut pas être contre tout. les énergies renouvelables, pourquoi pas? Mais à quel prix? Pour quel usage? Est-ce que notre rêve, c'est de pouvoir recharger notre SUV électrique pour aller se promener dans une forêt d'éolienne? C'était les Croissants décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Et pour rappel, vous pouvez envoyer vos avis, commentaires, suggestions à lescroissantsdécroissants@gmail.com. À la prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre, l'eau, le jour du dépassement.